of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour cette autre édition de l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Linden, Michel Joseph est à la mise en onde. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Les Américains célèbrent ce lundi le Martin Luther King Days, une journée en la mémoire de Martin Luther King, dont on sait qu'il a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire des États-Unis et notamment dans le domaine des droits civiques et de la non-violence. Pour Martin Luther King, la non-violence est non seulement juste, mais indispensable, car aussi juste que soit la cause d'origine, la violence signifie l'échec. Alors, question, que pensez-vous de Martin Luther King et comment son combat pour la non-violence peut-il inspirer les Africains? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001 202 619 31 40. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VO Afrique et pour nous accompagner au cours de cette émission ce vendredi, nous avons le professeur Boubé Namaywa. Il est professeur de philosophie à l'université Tchekanta Diop de Dakar. Professeur Boubé, bonsoir.
Bonsoir.
C'est toujours un plaisir de vous avoir sur les ondes de VO Afrique. Je vous pose tout de suite la question qui fait l'objet de notre émission.
Le plaisir est partagé.
Ah voilà. Donc je vous pose tout de suite la question qui fait l'objet de notre émission ce soir. Que pensez-vous de Martin Luther King et comment son combat pour la non-violence peut-il inspirer les Africains?
Alors, je vous signale tout de suite que Martin Luther King, j'ai commencé à avoir commerce avec lui déjà au collège à travers les textes que nos professeurs d'anglais à l'époque des Américains, en général, qui appartenaient au corps de la paix américain, qui nous proposaient. Et puis, je pense que dès cet instant, non seulement au collège, mais aussi au lycée, avec une certaine Madame Abdou, qui était une Américaine mariée à un Nigérien, le texte « I have a dream », nous l'avions étudié, nous l'avions disséqué à l'époque. Donc vraiment, ça a laissé une trace indélébile dans mettons ma mémoire. Et il me semble que cela a eu des conséquences assez sérieuses, en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne presque tous mes camarades à l'époque, sur l'exercice de la non-violence et qu'on peut obtenir des choses, non pas par la violence, mais par la non-violence. Autrement dit, aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont eu les textes que nous avez distribué, Madame Abdou, à l'époque, ne peuvent pas s'intégrer dans le sens de ce que fait Boko Haram aujourd'hui, c'est-à-dire obtenir des revendications politiques par la violence, mais plutôt par la non-violence, autrement dit, par le dialogue. C'est ça le plus fondamental. Autrement dit, si je me résume, c'est que le continent africain, de la même manière qu'à l'époque, il y avait la palabre sur le continent africain, quand un problème se pose, on vient, on en discute autour d'un feu de bois ou bien sous l'arbre à palabre. Je pense que c'est ça, ces choses-là que Martin Luther King a opéré au niveau, ou en tout cas a appliqué au niveau des États-Unis pour discuter de ces choses-là, parce que la discussion, elle est au-dessus de la violence. Et il y a des leçons qu'il faudrait retenir de ça.
Merci.
Maintenant, sa propre vie.
Oui, on reviendra sur sa vie au cours de l'émission. Merci, professeur Boubé, d'être avec nous. L'autre invité que nous avons dans ce programme, c'est Nema François Chérif. Il est juriste et politologue. Il vit ici à Washington, D.C. Chérif, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment la vie de Martin Luther King peut-elle inspirer les Africains?
Oui, comme vous le savez, Martin Luther King a été un activiste. Et il a lutté contre la ségrégation raciale. Il a lutté par les moyens de la non-violence pour adresser les problèmes qui se posaient aux minorités noires et asiatique ou hispanique aux États-Unis.
Ouais.
Et son combat a été de rendre tous les peuples, ou bien de rendre le peuple américain, ou tout particulièrement le gouvernement américain, à respecter les droits civiques, les droits, tous les droits reconnus aux Blancs, et ces mêmes droits devaient être reconnus aux autres minorités aussi vivant sur le sol américain.
Tout à fait.
Maintenant, pour nous, Africains en général, cette inspiration doit nous guider à faire face à nos ségrégations, qui soient les ségrégations d'ordre ethnique, quand il s'agit de l'exercice du pouvoir politique, qui soient les ségrégations d'ordre économique sur le continent, qui soit en Afrique du Sud, entre la minorité blanche, qui est vachement riche, et la majorité noire, qui sont au Zimbabwe et un peu partout dans sur le continent.
Tout à
donc,
fait.
C'est une inspiration pour les Africains en général, s'il s'agit de lutter contre toute forme de ségrégation.
Alors, chérie, vous restez avec nous. On a également, comme troisième invité dans ce programme, le docteur Mathias Eric Onangini, il est politologue, bien connu au Cameroun pour son franc-parler. Docteur Onangini, bonsoir.
Bonsoir à vos auditeurs.
Alors, qu'est-ce que le nom Martin Luther King évoque pour vous?
Le nom et la figure de Martin Luther King évoquent pour moi l'engagement, le courage, en même temps que la sagesse, la mesure et la tempérance. Martin Luther King s'est distingué en réunissant les qualités qui en faisaient un véritable leader moral, non simplement un leader en quête de position de pouvoir et en quête d'avantages, mais un leader ayant les qualités morales pour mobiliser autour d'une cause qui était essentielle, la cause de l'égalité citoyenne et civique aux États-Unis.
Tout à fait.
Il a su agir à partir d'une base communautaire, sans être sectaire ni raciste. Et sa mobilisation a toujours été orientée vers l'idée que le moyen de la non-violence allait permettre à tous les Américains, quelles que soient leurs identités raciales, d'être égaux.
Alors, docteur Onangini, je reste avec vous. Dans la lettre de la prison de Birmingham, écrite le 16 avril 1963, si j'ai bonne souvenance, Martin Luther King dit, je cite, « Une justice trop longtemps retardée est une justice refusée. » Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que trop de choses sont refusées aux Africains aujourd'hui, d'où ces manifestations et autres rébellions que nous voyons dans beaucoup de pays dans le continent?
Oui, beaucoup de pays africains ont une évolution politique assez difficile parce que ce qui prévaut encore, en réalité, ce sont des ordres politiques monopolistiques et autoritaires, même si la plupart de ces ordres se déguisent aujourd'hui en démocratie. C'est comme la figure du grand méchant loup déguisé en jeune fille. En réalité, Martin Luther King peut encore inspirer un certain nombre d'acteurs de la scène sociale et politique africaine qui interviennent sur les questions du droit de l'homme, sur les questions de citoyenneté et de démocratie.
Voilà. Professeur Namawa, vous voulez réagir sur la même question?
Oui, normal.
Oui, allez-y.
Que la question que vous venez de poser, elle a des incidences sur le continent africain. Allô?
Allons-y.
Oui, elle a des incidences sur le continent africain où aujourd'hui vous avez pratiquement des gens qui sont arrêtés sans aucune forme de procès, etc. Et cela est de nature, sincèrement, à pouvoir nous interpeller et à donner des leçons pour les dirigeants actuels. Autrement dit, quand ils donnent cette leçon-là, il va falloir que les dirigeants africains se disent qu'il ne sert à rien de maintenir des citoyens ou même des hommes politiques en prison alors qu'il n'y a aucun jugement qui suit cela. C'est à la justice de condamner un individu et non plus des détentions politiques. Et ça, malheureusement,
sur le continent africain, ça fait monnaie courante. Nous avons des gens qui sont constamment emprisonnés sans aucune forme de procès, alors que c'est à la justice de le condamner. Je répète encore une fois le cas du Niger, et malheureusement un cas d'école. Dans ce sens-là, où vous avez des hommes politiques pour leur opinion, ou naturellement pour des faits qu'on pense leur reprocher, ils sont en prison alors qu'il n'y a aucune décision de justice qui vient les condamner dans ce sens-là. Je pense que le discours de Birmingham, c'est ça, non? Le discours de Birmingham est un discours qui appelle sincèrement les dirigeants africains à dire que lorsque vous captez quelqu'un, pour une question ou pour une autre, il faut le remettre entre les mains de la justice pour que la justice se prononce là-dessus. Et quand c'est une décision de justice, il va falloir que tout le monde se plie à cette décision de justice.
Justement,
c'est un symbole de la démocratie.
Et on ne voit pas trop de justice en Afrique. On va aller au Tchad pour retrouver Christian Djirabi. Christian, bonsoir.
Bonsoir.
Votre réaction au thème de ce jour?
Oui, par rapport à la lutte de Martin Luther King, Martin Luther King était un homme pacifique. Son combat contre la violence, contre l'injustice et autres droits qui sont bafoués aux États-Unis. Son combat va inspirer aux Africains. Les Africains devaient imiter Martin Luther King pour que la paix et la justice règnent en Afrique. Mais malheureusement, nous constatons que les Africains ne font pas ce que Martin Luther King avait pris comme combat.
Alors, quand vous parlez des Africains, vous parlez des leaders ou des Africains qui manifestent?
Bon, je parle de ceux qui sont au pouvoir, parce que ceux qui manifestent n'ont pas le droit.
Exact.
Oui, parce que maintenant, il faut voir que ceux qui sont au pouvoir qui oppriment la population. La population veut aspirer à la liberté, à la justice. Mais toutes ces choses sont confisquées par ceux qui sont au pouvoir. Vous voyez, ce n'est pas facile d'imiter Martin Luther King maintenant en Afrique.
Voilà, donc nous restons en Afrique. On va avoir Alphonse Mbouaké, autant pour moi, qui pense qu'en Afrique, la lutte de pouvoir, de liberté sont menées avec les armes et que les populations sont massacrées. Martin, vous pouvez expliquer votre point de vue, je vais dire Alphonse.
John, vous savez que le combat d'idées, le combat d'idéologie, est plus fort par rapport aux armes, par rapport à la violence.
Tout à fait.
Vous savez que la justice, la vérité, finit toujours par triompher contre le mal. Alors, Martin Luther King a incarné la pacification, il a incarné la non-violence, et puis il a eu gain de cause par rapport à son combat. Contrairement à ceux qui utilisent les armes, en Afrique, nous avons des conflits liés beaucoup au pouvoir, liés aux tribus. Alors, pour contrer ces puissances, il faut utiliser les idées, il faut utiliser la non-violence. Vous savez que Nelson Mandela s'est inspiré de Martin Luther King. Pendant que ce temps, il était emprisonné. Il n'a pas utilisé les armes.
Ouais.
Par rapport à une branche de lancer, armée, avait combattu l'apartheid par les armes. Mais il n'a pas eu raison comme dans Mandela. Mandela, lui, a été au-dessus de la NC, branche armée. Alors, vous voyez maintenant le résultat en Afrique du Sud. La partie de la situation de l'hôtel a été évincée. Donc, la leçon à tirer pour nous les Africains, lorsque nous sommes opprimés, lorsque nous connaissons la justice, lorsque nous utilisons les inégalités, nous devons combattre ces inégalités par les idées.
Par les
comme le dialogue.
D'accord, par les idées. Shérif, vous êtes aux États-Unis et il y a en ce moment un groupe qui essaie de s'exprimer par les idées. Vous avez certainement entendu parler du groupe Black Lives Matter. Est-ce que ces gens-là sont entendus?
Oui, bien sûr, je pourrais dire qu'ils sont attendus dans certains cas. Et comme
on a perdu Martin, on va revenir. Docteur Mathias Erico Onanguini, vous vivez au Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de manifester sans qu'on ne soit inquiété?
Généralement, le droit de manifestation au Cameroun n'est pas respecté. À plusieurs reprises, les associations de la société civile ou des partis politiques n'ont pas pu effectivement manifester alors qu'ils avaient demandé aux autorités administratives de le faire. On a toujours prétexté qu'il y avait des menaces à l'ordre public, des risques de troubles pour interdire les manifestations. Ça, ce sont clairement des entraves à l'exercice de droits et de libertés politiques qui sont essentielles à la vie démocratique. Il y a véritablement une politique d'obstruction empêchant des acteurs qui sont autonomes du pouvoir d'exprimer leur position sur différents sujets et de mobiliser leurs militants ou sympathisants sur la scène politique nationale à l'occasion de manifestations.
Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que ces manifestations sont réprimées et pourquoi est-ce que les gens sont empêchés de s'exprimer? Est-ce que le pouvoir a peur de quelque chose ou il y a d'autres raisons?
Ce n'est pas simplement la peur. En réalité, le pouvoir a, de cette manière, construit un système qui lui permet de contrôler la capacité d'action et de mobilisation des partis d'opposition et des associations citoyennes indépendantes. Et là, en utilisant ces moyens administratifs, en fait, rétablit un ordre politique unanimiste où seuls peuvent s'exprimer, peuvent manifester, peuvent organiser des réunions, des groupes qui lui sont proches, des groupes qui le soutiennent. En réalité, c'est une manière de rétablir concrètement un système politique unanimiste, un système politique de parti unique, même si, de manière formelle, il existe le pluralisme politique et social.
D'accord. On va aller du côté du Mali pour retrouver Bakary Keïta. Bakary, bonsoir.
Bonsoir.
Votre réaction?
Ok, d'abord, je m'incline à la mémoire de Martin Luther King. Comme l'a si bien dit Burago Diop, les morts ne sont pas morts. Martin Luther King quand même reste quand même gravé dans la mémoire quand même de nous les Africains.
Tout à fait.
Donc revenons maintenant à notre mouton. Quand même l'exercice du pouvoir en Afrique là est quand même difficile. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'en 1990, Mitterrand avait dit est-ce que l'Afrique est mieux pour la démocratie. Donc pour chercher maintenant ce pouvoir, souvent il y a quand même la politique de la chaise-ville, il y a le bourrage des jours. Souvent, vraiment, ça ne va pas. On n'a pas compris vraiment le processus quand même de l'exercice du pouvoir. Donc, il faut vraiment une mentalité, une culture quand même pour que les Africains comprennent comment l'acquérir quand même le pouvoir. Moi, je crois que la démocratie, l'acquisition d'un pouvoir, c'est la fête. Hein, c'est la fête et non vraiment, vraiment des coups de poignard. Ouais.
Voilà.
Aussi, j'en veux aussi à la justice africaine. Souvent, on emprisonne les dirigeants sans jugement. Si j'ai bonne mémoire, Aya Sanogo est enfermé à Bamako depuis belle lurette, mais à présent, il n'y a pas de jugement.
On vous a compris, Bakary, merci. Professeur Boubé, il me semble qu'il se tient en ce moment un forum, une conférence sur la violence, sur la non-violence à Dakar.
Non, c'est le département de philosophie qui organise un colloque sur la violence.
Tout à fait.
Et c'est la violence dans toutes ses formes, hein, qu'il s'agisse de violences politiques, de violences religieuses, de violences, tout ce que vous voulez, parce qu'on a des panels dans ce sens-là. Mais avant, je voudrais faire mienne les analyses du camarade, du frère, parce que je ne sais pas si on partage les mêmes idéologies, donc des frères camerounais.
Du docteur Mathias Eric Onanguine, oui.
Absolument. Je partage totalement ces points de vue sur le sens justement de cela. Et moi, je m'inscris totalement dans le sens de comment il s'appelle l'Indien, Gandhi, Mandela, même si quelque part je peux reprocher, parce qu'on ne le dit pas très souvent, je peux reprocher à l'ANC d'avoir, à un certain moment, opté pour la violence. Et Mandela avait refusé cela. Mais le colloque que nous tenons à Dakar, c'est une publicité pour ce colloque-là. Je pense que c'est un colloque qui va faire en sorte que les Africains puissent faire leur auto-critique, puissent faire une introspection pour savoir exactement où se situent les problèmes qui génèrent la violence sur le continent africain.
Tout à fait.
Et dans ce panel-là, nous avons énormément maintenant de communications qui vont arriver. Et je pense que si les gens voient les conclusions de ce colloque-là, ce serait un colloque qui va véritablement permettre aux Africains de faire leur introspection et de se dire que nous sommes responsables de la violence et qu'il est temps d'arrêter cela.
Voilà,
excusez-moi.
Oui, allez-y, en quelques secondes. Oui, allez-y, professeur. D'accord.
Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à l'issue de la guerre de Badr, quand il a dit « nous venons de gagner la petite guerre sainte »,
ouais.
Abou Bakr dit qu'il lui avait demandé, mais oh Rasulallah, qu'est-ce qui constitue alors cette grande jihad que nous allons connaître? Il lui a dit, c'est la guerre sainte que chacun d'entre nous va pouvoir remporter contre lui-même.
Voilà.
Et ça, c'est totalement platonicien.
D'accord. D'accord. On va aller en Côte d'Ivoire pour retrouver John Désiré qui est au téléphone. John Désiré, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Oh, on vous écoute pour le thème de ce soir.
Oui, il faut dire que Martin Luther King était un véritable symbole de la non-violence. Avec Gandhi, tous ceux-là ont vraiment combattu pour que le peuple soit vraiment libéré. Et Martin Luther King, à travers ses actions non-violentes, a permis à son peuple américain de comprendre que la violence ne pouvait aboutir à rien. Et selon moi, le peuple africain devait suivre cet exemple-là.
D'accord.
Voyons, parce que tous les pays d'Afrique ont connu des coups d'État, et ce, par la violence. Mais si l'Afrique pouvait utiliser ses moyens, et que sont et la non-violence, c'est-à-dire le dialogue, l'envie du partage.
Tout à fait.
Cela permettrait bien à l'Afrique de pouvoir éviter ces nombreux coups d'État. Parce que l'Afrique est toujours en retard, malgré tout ce qui se passe, malgré toute forme de démocratie que les gens peuvent appeler. On remarque que l'Afrique est toujours en retard.
Voilà.
Et tous ceux qui veulent arriver au pouvoir ne vont que par la violence.
On vous a compris. On vous a compris, Joseph Désiré. Je crois qu'on a Shérif qui est revenu. Shérif, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On parlait tout à l'heure du mouvement Black Lives Matter. Est-ce qu'ils sont entendus?
Bon, je disais que Black Lives Matter, que la vie des Noirs aussi est aussi importante comme la vie de tous les autres Américains, blancs ou autres. Et le mouvement vient de naître face pour répondre à la violence ou la violence policière contre cette minorité noire aux États-Unis. Et comme vous le savez, le mouvement de non-violence prennent généralement du temps pour arriver à l'objectif. Et
d'accord.
L'objectif recherché ici par ce mouvement de non-violence, c'est de ramener les décideurs politiques à comprendre que la loi doit changer pour que la vie
et que tous les hommes sont égaux. On va aller rejoindre Mitterrand Ayévi. Je crois qu'il est au Togo. Mitterrand, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, en quelques secondes, votre réaction.
Ce sera qu'avec nos dirigeants qui ne pensent qu'à leur poche et avec cette jeunesse qui est livrée à son propre sort, il faudrait vraiment qu'on ait des gens de la carrière de Martin Luther King pour faire booster un peu les choses, quoi. Et aussi pour ne pas rester aussi longtemps sous la domination européenne.
Ouais.
Sinon, depuis 50 ans, l'Afrique est toujours dans la case de départ. Rien ne bouge, rien ne remue. On est toujours là, à faire le retour de la peau. Il faudrait que nos dirigeants se réveillent comme ma tête pour faire booster un peu les choses. Quoi.
D'accord. Vivement que ce message soit entendu. On va faire un dernier tour de table. On tire à la fin de cette émission et on va repartir du côté des Yaoundé pour retrouver le docteur Owonanguini. Le mot de la fin, docteur?
Ce qu'on peut dire, c'est que Martin Luther King demeure une figure qui peut inspirer les leaders politiques et sociaux africains qui sont confrontés à des situations où le combat pour la promotion des libertés, des droits, de l'état des droits et de la démocratie est encore long dans certains pays. De toutes les manières, la non-violence est toujours un mode pertinent d'action, surtout quand ce mode se popularise, parce que la force de la non-violence, c'est d'être capable de mobiliser beaucoup d'acteurs pour enrayer la violence répressive des pouvoirs publics qui s'opposent à ceux qui utilisent la non-violence pour promouvoir la défense des droits et des libertés.
Merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité. Professeur Bobé, votre mot de la fin?
Mon mot de la fin, c'est que évidemment, il fallait faire une comparaison. Je crois que Martin Luther King a eu comme tribune les églises pour pouvoir parler aux adeptes de la violence, pour les ramener simplement à la non-violence. Je pense que sur le continent africain, aujourd'hui, nous n'avons pas, on a quand même des institutions qui se résument à l'arbre, à la parole, à la discussion, aux conférences nationales telles que nous avons connues sur le continent africain.
D'accord.
Il faut discuter. Et quand on discute, je pense que ça peut éviter certains heurts, certaines calamités qui frappent notamment le continent africain, comme au Rwanda, au Burundi ou à RDC, etc. Je pense que vraiment, il va falloir que les gens dialoguent.
Merci beaucoup. Désolé, professeur, merci beaucoup pour votre temps. En une seconde, votre mot de la fin, shérif.
Oui, je voulais dire que le gouvernement américain a institué un programme à travers le département d'État qui forme les nouveaux leaders, les jeunes leaders pour demain, et qui doivent s'atteler à des mouvements de non-violence dans le domaine de toute forme de ségrégation, qu'il soit la mutilation génitale, qu'il soit la violence contre l'environnement, qu'il soit la violence contre les femmes.
Merci, merci, chérif.
Ces formes-là sont aujourd'hui en vie.
Merci, chérif. On arrive au terme de cette émission. Juste un petit bref rappel historique que c'est en 1963, le 28 août, que Martin Luther King a donc prononcé son fameux discours « I have a dream ». Et puis, beaucoup d'autres choses se sont passées d'ici là. Nous sommes arrivés au terme de cette émission de l'Amérique et vous. John Lyndon était à la présentation avec le soutien de toute la rédaction. Michel Joseph assurait la production. Merci également à notre ingénieur du jour. Et restez fidèles au programme de VO Afrique. À plus.